Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM, il est 8h03, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois, proposée chaque semaine le vendredi à 8h en direct. Aujourd'hui, c'est le maire de Buchelet, Paul Martinez, qui nous reçoit. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Merci de nous accueillir. Avec vous, nous aborderons la nouvelle usine de décarbonatation du Grand Paris Seine-et-Oise, inaugurée cette semaine à Buchelet. Nous reviendrons sur les conseils de quartier que la commune va bientôt proposer. Et puis, nous détaillerons les événements qui se déroulent dans la ville entre Octobre Rose, Halloween et bien sûr le Salon du Livre et des Écrits. On commence donc par l'inauguration cette semaine de l'usine de décarbonatation pour adoucir l'eau courante. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a donc mis en place cette unité à Buchelet. Ce procédé bénéficiera à 57 000 habitants répartis sur 5 communes, dont Buchelet. Quels sont les avantages de cette usine pour les habitants ?
Le premier avantage, c'est définitivement de tourner le dos à la calcarisation de l'eau. Hein. On a une eau très calcaire sur le territoire historiquement, hein, donc énormément de ménages se sont équipés sur Buchelet, mais j'imagine ailleurs, d'adoucisseurs individuels. Donc dorénavant, cet adoucisseur, quelque part, c'est l'usine elle-même qui le procure. Donc on aura une eau à l'arrivée qui sera décalcarisée. Donc est-ce qu'il faut pour autant jeter son adoucisseur? Peut-être pas. En tout cas, il faut l'ajuster. Ça, c'est clair. Donc c'est un conseil que je donne à l'ensemble des habitants. C'est ce que nous ont dit effectivement le délégataire Veolia. C'est un plus effectivement pour le territoire, pour les habitants. Ça va permettre aussi d'avoir une eau plus peut-être plus potable aussi quelque part. Donc voilà, ça ne peut être qu'un plus pour les habitants, mais c'est un process qui est relativement utilisé, puisque je crois que l'usine d'Aubergenville aussi sur le territoire l'a mis en place.
Et puis c'est économique aussi pour les foyers.
Tout à fait, oui. Ça permet effectivement de consommer moins, on va dire. Quoi.
Consommer moins, puis de moins abîmer les équipements.
Tout à fait.
Tant que nous parlons d'écologie, vous avez accueilli la semaine du développement durable. C'était du 18 au 29 septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au programme ?
Alors, la semaine du développement durable, chaque année, on y participe de façon assez intense. Cette année, on a encore participé au World Cleanup Day, donc qui est ce jour un peu particulier où toute la planète se met à nettoyer son territoire. Il y a eu effectivement une éco-rando qui a été organisée le 18 septembre avec le magasin Décathlon sur Buchelet. Il faut savoir que les enseignes commerciales sont souvent assez dynamiques sur ce sujet du développement durable et des transitions. Les fois précédentes, on travaillait aussi avec le Mantois en transition, qui est une association très dynamique sur le territoire. Donc oui, on continue chaque année à être très présent sur cette semaine du développement durable. On a une braderie au sein de la bibliothèque. On aime bien effectivement ce genre de manifestation. Ça permet d'échanger les objets, de pas les jeter, hein, culturels et autres. On a aussi inauguré la Grainothèque à Buchelet, donc le 18 septembre dernier. C'est une opération assez originale qui permet en fait un espèce de troc de prendre et de déposer librement les graines que l'on souhaite effectivement pour pouvoir naturellement les planter, donc participer quelque part au développement de la biodiversité. On a eu des conférences aussi sur la rénovation énergétique et un atelier zéro déchet par le service culturel, donc pour une consommation un peu plus responsable et minimiser un peu la question des déchets, qui va être une question de plus en plus prégnante pour notre société et de plus en plus coûteuse aussi. Hein, donc.
Et puis justement, l'écologie, c'est une thématique importante en général pour Buchelet tout au long de l'année.
Oui, tout au long de l'année, on a plusieurs dispositifs à Buchelet qui le montrent. Hein. On participe au financement des récupérateurs d'eau, donc plusieurs habitants en ont profité. Idem, on participe au financement des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques. Donc dès qu'un Buchelois souhaite effectivement installer ce type de dispositif, il a une aide de la commune. Par ailleurs, je rappelle que notre plaine des sports, qui est un des équipements les plus importants de la commune, possède sur son toit, 90 panneaux photovoltaïques qui participent au chauffage du bâtiment, mais aussi et surtout qui participent à réinjecter dans le réseau de l'énergie verte, on va dire.
Autre sujet que je souhaiterais aborder, l'implantation il y a 2 mois du supermarché Discount Supéco, juste à côté de Lidl hein, en plus. Est-ce que vous craignez que la guerre du Discount soit néfaste pour les fournisseurs, les agriculteurs, enfin plusieurs commerçants finalement?
Alors bon, disons que si Discount il y a, c'est qu'il y a aussi un lien avec le pouvoir d'achat de nos habitants. Donc bon, ça je peux pas en tant que maire lutter contre ça. J'avoue que j'ai plutôt une préférence pour des projets qui sont plus locaux, hein, qui pourraient effectivement participer comme on le souhaite. On en a déjà un marché des producteurs locaux, des halles de producteurs locaux. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant, effectivement, ce type de projet, que des projets qui sont là quand même, disons-le clairement, pour alimenter des actionnaires de grands groupes de la distribution, quoi. Donc bon, le localisme, c'est pas un vain mot. Il faut peut-être y revenir de plus en plus à l'avenir. Donc voilà. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des acheteurs, et donc forcément, c'est qu'ils participent aussi à leur façon à donner une réponse aux problématiques de pouvoir d'achat de nos habitants.
On va parler également de l'opération Mantes Université. On rappelle qu'il s'agit d'un ambitieux projet de quartier de logement avec des commerces, des bâtiments publics et puis aussi à vocation universitaire. Alors il doit voir le jour sur la ZAC à cheval entre Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelet. Et donc à Buchelet, qui aura-t-il ?
Bah pour l'instant essentiellement du logement. Alors je sais que le PAMSA travaille sur l'aménagement de la grande halle Sulzer pour en faire une zone un peu mixte avec un peu de commerce, etc. Mais on a surtout aujourd'hui entendu parler de logement. Je dis bien entendu parce que pour l'instant je n'ai vu aucun projet. Alors apparemment il y aurait un premier projet sur Buchelet qui viendrait s'implanter de près de 250 logements, dont 45% de logements sociaux. Je suis un peu inquiet, j'avoue, au regard de la nouvelle mouture et le dimensionnement de ce projet Mantes Université, parce que il y a plusieurs milliers de logements, en l'occurrence plus de 3000, qui s'implanteraient effectivement sur l'ensemble de cette ZAC, soit quasiment la moitié du nombre de logements sur le Val-Fouré. Donc on a entendu un débat cette semaine autour de la densité de l'habitat. C'est la ministre Wargon qui avait lancé ce débat-là. Bien sûr, il faut du logement, bien sûr il y a une demande forte de nos habitants, mais il y a peut-être une manière de penser les futurs quartiers et éviter les erreurs du passé, parce qu'on les paye cash. Si c'est pour réhabiliter dans 30 ans ce nouveau quartier qu'on est en train de constituer parce que la vie est impossible du fait de cette densité, voilà, faisons bien attention tous autant que nous sommes, et notamment nous les décideurs locaux, à ne pas faire n'importe quoi sur ce type de démarche. Donc je demande à ce qu'on puisse réfléchir de nouveau un peu sur cette question de la densité du quartier Mantes Université qui m'interroge.
On aborde à présent la vie communale. La mairie va bientôt proposer des conseils de quartier. Alors en quoi ça consiste ?
Les conseils de quartier, d'autres communes le font, hein, sur le principe, il n'y a rien d'original. On est une commune qui devient une commune périurbaine, on commence à s'éloigner un peu du village d'antan, et donc forcément, il y a ce qu'on appelle un peu des quartiers. Alors, a fortiori, le quartier Meunier-Gare, hein, celui dont on parlait, qui est proche de Mantes Université, mais aussi deux quartiers sur le village. L'idée, c'est de leur donner un peu la parole, hein, pas un peu d'ailleurs, c'est de réunir à peu près une 8 à 10 conseillers de quartier qui soient représentatifs en quelque sorte de leurs voisins, de leurs habitants voisins, qui puissent effectivement prendre la parole en leur nom sur le quotidien d'une part, mais aussi sur des projets d'animation, des projets d'action qui pourraient être financés. D'ailleurs, on compte attribuer un budget à chacun de ces quartiers. Donc leur donner la parole, les responsabiliser en quelque sorte sur ces actions et ces animations, Et naturellement permettre aussi un dialogue direct avec les habitants, puisque il y aura ces conseils de quartier, mais il y aura aussi surtout une fois par an au moins une réunion globale des habitants par quartier pour permettre un échange avec les élus, avec les conseillers de quartier, voilà. Alors ça n'a pas vocation à se substituer au conseil municipal, bien sûr, parce que le conseil de quartier n'a pas de pouvoir de délibération, mais il sera un relais important pour les habitants et pour les élus, et remettre un peu de lien, parce que le Covid est passé par là. Il faut que les gens sortent un peu plus de chez eux. Il faut retrouver effectivement ce lien un peu social. Je dirais pas qu'il s'est brisé, mais qu'il s'est distendu pendant cette séquence-là. Et pour nous, c'est fondamental, pour les élus. Une commune où les habitants ne font que résider, point, sans s'investir à minima, c'est plus du tout ce qu'on appelle une collectivité. Donc voilà. On le voit d'ailleurs dans la difficulté qu'on a, mais je pense que c'est la même chose pour les autres communes, à recruter des bénévoles sur différents projets. Donc voilà, il faut que les gens se réapproprient un peu la commune.
Et donc côté pratique, ça va démarrer quand et à quelle fréquence, où?
Alors ça va démarrer d'abord par le quartier des Meuniers au mois de décembre. Il y aura une grande réunion avec l'ensemble des habitants. On espère que les conseils de quartier seront pourvus. On a fait des appels à candidatures. On reçoit pas mal de candidatures d'habitants qui sont intéressés pour être conseiller de quartier. Et donc ça devrait être, je crois, le 16 ou le 17 décembre. J'ai plus la date exacte. Effectivement, on a une grande réunion avec les habitants des Meuniers qui sera organisée. Et on viendra vers eux là-dessus très très prochainement pour fixer la date exacte. Et puis on enchaînera sur la réunion sur les deux quartiers du village en janvier-février à peu près.
Alors ça nous amène aux aménagements de la commune. La ville travaille sur le projet d'une future médiathèque. Elle devrait ouvrir dans un peu plus d'un an, hein, c'est ça, si je me trompe pas.
C'est ça.
Alors en quoi c'était une nécessité ?
C'est une nécessité parce que on est monté jusqu'à une fréquentation très importante de l'ancienne bibliothèque. L'idée, c'était effectivement de lui donner une dimension un peu plus importante, dans le même état d'esprit que ce que je vous disais sur les conseils de quartier, c'est-à-dire que la ville évolue. On a maintenant 3200 habitants. Il y a une quinzaine d'années, nous étions à peine 2000. Donc voilà. Et ça participe pour nous, sincèrement, d'une politique culturelle autour de l'écriture et de la lecture public. Fondamental, ça fait des années que je martèle ce discours à en saouler les habitants et les élus, mais il me semble que dans une société où l'image a pris le pas sur tout, il faut que les responsables publics maintiennent la capacité de nos habitants à lire et à faire lire leurs enfants, parce que la lecture et l'écriture, c'est le support de l'intellect, c'est le support de la mémoire. On n'est pas dans l'émotion comme dans l'image, etc. On est sur autre chose. Plus nos habitants liront, plus on peut construire un futur plus serein, je pense. Voilà, je le dis et je le répète, dites aux enfants de lire le plus possible et de sortir un peu des réseaux sociaux, ça ne peut leur faire que du bien.
Et dans cette optique, évidemment, il y aura le salon du livre et des écrits, on y reviendra tout à l'heure. Autre aménagement, hein, qui va arriver dans les années à venir, c'est alors avec le label Terre de Jeux 2024 que vous avez obtenu en vue des prochains Jeux Olympiques, comment ça va se concrétiser pour la ville?
Ce label, c'est pas un quitus donné comme ça par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Naturellement, on doit remplir un cahier des charges et donc participer et organiser surtout des manifestations sur la commune autour de l'olympisme. Alors ça vaut pour l'esprit olympique, c'est-à-dire ça peut être des compétitions qui soient pas forcément sportives, mais qui soient un peu dans cet esprit-là, mais aussi bien sûr sur des compétitions, des animations et des événements sportifs. Donc on va construire ça. Alors on a naturellement, pour ce qui est des disciplines olympiques, le judo qui est très implanté sur le territoire. On a reçu un stage effectivement d'une partie de l'équipe de France en mai-juin dernier, c'est mai je crois, avant naturellement les JO de Tokyo, donc c'était intéressant. Et puis on a bientôt aussi un autre stage d'athlètes internationaux, dont Kylian Leblouch, qui est apparemment annoncé à ce stage, qui je le rappelle est médaillé d'or aux JO de Tokyo par équipe. Donc cette superbe médaille qu'ils avaient obtenue face aux Japonais, les Français. Donc voilà, on est sur ces questions-là, des manifestations. Naturellement, les habitants y seront associés. Le hip-hop aussi va faire son entrée aux Jeux Olympiques. Donc on a cet été aussi, on a organisé une une grande manifestation autour du hip-hop et de championnats départementaux, donc avec Ken Lo, et on veut effectivement continuer à aller dans ce sens-là, donc judo, hip-hop, karaté, puisqu'historiquement, voilà, le karaté est sur Buchelet, même s'il ne sera plus, alors ça je ne l'ai pas compris, olympique en 2024, il l'a été à Tokyo, il ne l'est plus en 2024, mais on continuera à travailler avec l'association de karaté qui est excellente sur la commune, il y en a bien d'autres aussi, donc voilà, on va participer de cette démarche. Je rappelle que Buchelet avait été nommé pendant 2 ans, de 2017 à 2019, ville olympique, commune olympique du département, donc dans la catégorie des moins de 10 000 habitants, donc pour tout ce que nous vivons sur le sport.
Nous allons détailler maintenant les quelques événements qui se déroulent dans la commune. On va d'abord revenir sur Octobre Rose et la Marche Rose qui a eu lieu à Buchelet le 9 octobre. Alors ça, évidemment, c'est un événement phare dans la commune.
Oui, oui, chaque année. Alors il y a une année où ça a eu lieu à Rosny et c'était très bien aussi. Hein. Moi, je marque bout de pas sur le fait qu'elle ait lieu à Buchelet. Ce qui serait bien, c'est qu'on en ait une majeure, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire du Mantois, au moins. Enfin, parce que bon, là, j'ai vu qu'il y en avait ça et là d'autres. C'est très bien, de toute façon. Hein, ça participe d'un développement de l'action de la Note Rose, notamment. Association qui était présidée par Pascal Vatrin, que je salue, et qui a passé la main récemment. Et donc, à Patricia Bourri, que je salue aussi, la nouvelle présidente. C'est une association qui, partie de rien, a vraiment créé un engouement pour accompagner cette thématique importante liée à la lutte contre le cancer du sein. Beaucoup de femmes y sont touchées, beaucoup de femmes sur le territoire aussi. Donc l'idée, c'est de montrer cette solidarité à toutes ces personnes malades, mais aussi à celles qui sont en rémission et qui se reconstruisent de ce point de vue-là. Donc la Marche Rose, oui, près d'un millier de participants cette année encore. Donc voilà, c'est un grand moment de solidarité, un grand moment de partage. J'avoue que ça fait du bien. En plus, on s'est tous retrouvés, on a revu des personnes qu'on n'avait pas revues depuis des mois. Enfin, il y a eu un moment assez unique cette année. Et bon, c'est des moments qu'on aime bien quand on est élu, parce que voilà, on est aussi là pour ça.
Autre temps fort prochainement, toute la programmation autour d'Halloween. Vous avez un service culturel qui marche bien et qui a concocté un gros programme pour les jours à venir. Alors voilà, un petit mot sur les activités proposées à Buchelet.
Alors je pourrais pas vous détailler complètement toutes les activités autour d'Halloween. Je sais que chaque année, effectivement, on accompagne cette fête. Alors bon, il y a parfois des débats, mais qui sont de plus en plus lointains maintenant, ces débats. Est-ce que c'est vraiment une fête de chez nous, etc. Ça a été adopté par tous les habitants et les enfants, donc allons-y. Faisons-nous peur, comme on dit. On sait que les bûcherons le savent, hein, les gamins frappent aux portes ce jour-là, et les bonbons, faut les avoir. Pour le reste, effectivement, il y a toute une série de manifestations autour du service culturel, autour du conte, autour de toutes ces questions-là. Vous avez dit qu'effectivement le service culturel était très dynamique. J'en profite pour saluer Sophie Caruso, sa nouvelle directrice, et l'ancienne qui est partie à la retraite, dont on a fêté le pot de départ, Claudine Aumont, qui a fait un travail depuis 20 ans remarquable, et qui va continuer à le faire, puisqu'elle préside aux Destinées de Ciné Images, une association assez dynamique notamment. Mais oui, sur Halloween, on va dire c'est comme les autres années, peut-être encore pire, pour prendre une expression plutôt d'Halloween.
Oui, alors on peut préciser qu'il y aura notamment un cluedo géant, un loup-garou, une chasse au trésor, des ateliers et des contes. Alors, vous évoquiez l'association Signes et Images, et ça nous amène à ce dernier sujet, le Salon du Livre et des Écrits, qui revient, ce sera le 7 novembre, à la Plaine des Sports Grigore Breja. Qu'est-ce que les visiteurs pourront découvrir lors de ce salon ?
Alors, la même chose qu'il y a 2 ans, en 2019, quand il y a eu la première édition du salon, c'est un dimanche déjà, c'est donc personne n'a d'excuses pour ne pas être présent. Plusieurs exposants, souvent des écrivains, parfois des éditeurs, qui viennent effectivement, et des locaux, parfois des régionaux, qui viennent exposer leurs œuvres, discuter avec les habitants. L'idée, c'est de faire une rencontre avec les créateurs, les auteurs, pour tous les amoureux de l'écriture et de la littérature, mais pas que. Vous avez tout type d'auteurs. Ça concerne aussi le livre pour enfants, ça concerne le polar. Enfin, la dernière fois, j'avais été presque surpris, mais finalement j'aurais pas dû, de la qualité des artistes, des écrivains exposants. sur cette thématique-là. Et ça participe pour nous aussi de la volonté de démocratiser la lecture le plus possible. Donc, aller à la rencontre des auteurs, c'est un peu ça, quelque part, et des éditeurs. Vous avez beaucoup d'éditeurs qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire connaître leurs écrivains. Et je pense qu'il faut les encourager. C'est eux qui sont à la base de l'amour qu'on peut avoir pour la lecture. Ça, c'est évident.
Merci beaucoup, Paul Martinez, de nous avoir reçus en direct ce matin à Buchelet.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Juste après la pub, le retour des tubes et votre journal d'information locale à 8h30. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois. 6h, 9h, BPM Matin.